Et le journal vous est donc présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Qui va gouverner l'Italie? Il va falloir attendre l'issue de longues tractations politiques pour le savoir. La coalition de droite obtient 37% des voix, mais c'est le mouvement 5 étoiles qui devient le premier parti du pays. Muriel Pénicaud n'a pas peur de fâcher les partenaires sociaux. Sa réforme de la formation professionnelle prévoit un chamboulement de la collecte des fonds qui ne sera plus assurée par les organismes paritaires collecteurs agréés, mais par les URSSAF. La contestation prend de l'ampleur à Mayotte. Après les manifestations, les barrages, l'opération Île Morte, les mairies de Mayotte sont fermées pour protester contre l'insécurité. L'audiovisuel public ne sera pas privé de redevances en Suisse. Les électeurs ont clairement rejeté l'initiative Nobilag, mais le débat sur le coût du service public va se poursuivre en Suisse et en Europe. C'est le dossier de ce journal. C'est donc le saut dans l'inconnu pour l'Italie. À l'issue des élections législatives d'hier, extrême droite et populiste revendiquent le pouvoir. La coalition des droites est arrivée en tête avec 37% des voix, mais elle n'a pas la majorité absolue. Ce qui n'empêche pas Matteo Salvini, chef de la Ligue, de se voir déjà en haut de l'affiche. Olivier Poujade a suivi ses déclarations.
Salvini, c'est le nouvel homme fort de la coalition de centre-droit. Son parti a fait un bond de 14 points depuis la dernière élection et l'interrogation du jour était de savoir si une alliance post-élection avec l'autre grand vainqueur populiste, le 5 étoiles de Luigi Di Maio, si ce rapprochement était possible. La réponse est non pour Salvini.
Je suis habitué à respecter ma parole, mon engagement auprès de 60 millions d'Italiens. Et cet engagement, c'est la coalition de centre-droit. J'ai lu tellement d'analyses bizarres sur des coalitions étranges.
Pas de changement de cap, Salvini affirme qu'il consultera tout le monde et essaie de démontrer que le costume de Premier ministre est à sa taille, sans pour autant perdre de vue son projet.
Le vote des Italiens nous permet de reconstruire une Europe fondée sur les femmes et les hommes, et pas sur les contraintes et la bureaucratie. Et quand je regarde les soi-disant expériences populistes ailleurs en Europe, je suis fier et je reste fier d'être populiste.
Pas de sortie anti-migrants en ce lendemain de vote. Matteo Salvini préfère s'adresser à ses électeurs et dérouler son discours anti-système sans mentionner que sa formation a déjà fait partie de deux gouvernements Berlusconi depuis 2005.
Olivier Poujade à Milan avec Raymond Albouy à la technique. Quant au mouvement 5 étoiles, il est devenu le premier parti du pays avec plus de 32% des voix. Et il revendique aussi le droit de former un gouvernement. En tout cas, les résultats de ce scrutin sont un cinglant désaveu pour le gouvernement sortant. Le parti démocrate de Matteo Renzi n'a totalité que 19% des voix. On retrouve Mathilde Imberti en direct de Rome. Mathilde, il y a eu toute la journée des rumeurs de démission de Matteo Renzi.
Oui, et la démission n'est pas encore officielle. Aurélie, on attend un discours de Matteo Renzi dans les minutes qui vont suivre. En tout cas, le Parti démocrate fait son plus mauvais score, 18-19%, ce qui pourrait en effet forcer eh bien le patron de ce parti vers la sortie. Les deux grands vainqueurs, hein, vous l'avez dit, la Ligue de Matteo Salvini, qui devient de fait le parti le plus fort à droite en Italie, et les 5 étoiles à 32%, première formation d'Italie. Cela nous propulse vers le gouvernement, a déclaré ce midi Luigi Di Maio, le leader des 5 étoiles lors de cette campagne.
Donc un gouvernement 5 étoiles, c'est possible?
Oui, c'est même selon les observateurs que j'ai pu joindre aujourd'hui le scénario le plus plausible. Ce mouvement anti-système, ni droite ni gauche, avec un discours très dur sur l'immigration et sur l'Europe, mais un discours interventionniste sur l'économie en termes d'aide aux plus pauvres notamment. Le mouvement 5 étoiles pourrait attirer à lui une partie de la gauche et en particulier ce parti démocrate en crise, mais c'est une hypothèse à l'heure où l'on se parle.
Et alors quand est-ce qu'on peut espérer y voir plus clair ?
Alors dans plusieurs jours, car l'Italie vit un séisme politique, hein, vous le comprenez bien, dont il va falloir saisir parfaitement les conséquences. Le 23 mars, c'est la prochaine date à noter, le nouveau Parlement se réunira, il élira ses présidents de groupe et le président de la République italienne débutera officiellement les consultations pour tenter donc de trouver un gouvernement au pays.
Merci beaucoup Mathilde Imberti, un dossier à suivre donc. L'initiative Nobilag sonne comme un avertissement pour l'audiovisuel public européen. Les Suisses ont finalement rejeté hier la proposition de supprimer la redevance audiovisuelle. Le non l'a emporté à 71% alors qu'il y a quelques semaines encore, le oui était donné gagnant. Un épisode qui a incité à la réflexion les voisins européens, comme en témoigne ce reportage de Cécile de Kervas-Douy.
les Suisses diraient non au service public. Je pense que ça aurait été un très mauvais signal pour les services publics audiovisuels en Europe.
Soulagé, Pascal Critin, le directeur de la radio-télévision suisse romande, l'est pour son pays, mais aussi pour ses voisins. Depuis des semaines, les autres services publics européens scrutent le débat qui a lieu en Suisse. Car ce que dit ce référendum sur l'audiovisuel public dépasse largement les frontières de ce petit pays, explique le grand patron de toute la SSR, Gilles Marchand.
Je pense que, au fond, le service public est remis en question sur ses bases parce qu'il n'a pas encore réussi véritablement à répondre à cette évolution sociologique. Parce que la relation aux médias a changé. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des informations qui viennent de toutes sortes de plateformes plus ou moins vérifiées, parce qu'on se dit que l'information n'a plus de prix, parce qu'on n'est plus d'accord d'être contraint par des programmations. Bref, comme le service public incarnait jusque-là un peu cet ancien monde, à nous de montrer à ce public nouveau que nous pouvons parfaitement être tout à fait contemporains par rapport à ces nouveaux usages.
Et c'est ainsi qu'à l'instar de la Suisse, tous les audiovisuels publics européens clament qu'ils doivent se réformer pour s'adapter à un public happé par des mastodontes de l'audiovisuel américain comme Google, Apple, Netflix ou Amazon. Et la recette semble devoir être la même à travers toute l'Europe. Réorganiser les entreprises en rassemblant à nouveau radio, télé et web. C'est ainsi qu'Annick Capel, journaliste à la RTBF, est venue couvrir le référendum suisse pour la télévision belge mais aussi pour la radio et pour le web, au risque, dit-elle, d'une perte de qualité pour au moins l'un de ces médias.
Je pense qu'on n'a pas le choix, sinon on sera dépassé par les autres. Et donc là, on vient de nommer au sein de la RTBF ce qu'on appelle des managers 360. Ces managers 360 vont chaque jour essayer de couvrir l'actualité en prenant en compte les trois médias. Et donc, on travaillera de plus en plus pour le web, pour la radio, pour la télé. Donc l'idée, c'est d'augmenter notre production propre sur le web, d'augmenter la productivité. Je pense qu'en effet, là derrière, il y a des considérations économique, même si, dans un premier temps en tout cas, on ne touche pas au personnel.
Sauf que ce type de réorganisation passe aussi souvent par des licenciements. Ce sera le cas en Suisse avant la fin de l'année, comme ça a été le cas à la BBC ou à Radio-Canada. Parce que dans presque toute l'Europe, les pouvoirs politiques demandent aux médias publics de faire des économies. Le paradoxe que montrent les études de l'UER, l'Union Européenne des Radios-Télévisions, qui se trouve à Genève, c'est que les citoyens sont de plus en plus attachés à ces médias de service public, qui sont perçus comme les plus fiables et particulièrement les radios. D'où le danger des réductions budgétaires, considère Florence Hartmann, analyste à l'UER.
Il demeure essentiel d'avoir des médias de services publics pour remplir des missions particulières que ne rempliront pas les groupes de médias privés. Et ça, c'est vrai qu'il faut l'expliquer. Il faut expliquer la contribution des médias de services publics à la démocratie, la contribution des médias de services publics à la vie culturelle, à la représentation du sport. Il faut aussi voir qu'on a aujourd'hui une certaine forme de recrédibilisation des médias de service public avec la thématique des fake news. On a tout de même des citoyens qui reprennent conscience de l'importance d'avoir de l'information professionnelle, de l'information indépendante, de l'information validée de qualité.
Il est donc essentiel que, comme en Suisse, l'audiovisuel public devienne un débat public. Et de citer l'exemple du Danemark, où sous la pression des citoyens, les moyens de l'audiovisuel public ont été augmentés et chaque jour, malgré les concurrents privés, le service public rafle la moitié des parts d'audience du pays.
Le Danemark, un exemple très intéressant. Merci Cécile de Kervas-Douai. Et l'on peut aussi lire votre dossier audiovisuel public, la Suisse en miroir de l'Europe sur franceculture.fr. En Syrie, un premier convoi d'aide est entré dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. Aujourd'hui, à l'est de Damas, une quarantaine de camions transportant aide médicale et nourriture ont pu franchir les barrages. Mais de nouvelles frappes ont touché le secteur et depuis cette nuit, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a décompté 44 civils tués dans des bombardements du régime syrien. La situation humanitaire en Syrie, c'est l'un des sujets abordés par Jean-Yves Le Drian avec le président iranien Hassan Rouhani à Téhéran. Il a aussi beaucoup été question de l'accord sur le nucléaire iranien remis en question par les États-Unis. Pour le chef de la diplomatie française, beaucoup de travail reste à faire s'agissant du programme balistique iranien et du rôle de l'Iran dans les crises régionales. Mais la diplomatie passe aussi parfois par la culture et le ministre des Affaires étrangères a inauguré cet après-midi une exposition du Louvre au Musée national de Téhéran. C'est la première exposition de grande ampleur d'un musée occidental en Iran et notre envoyé spécial Valérie Crova l'a visité pour nous.
C'est une statue en fait qui est couverte d'inscriptions, dont une partie d'ailleurs relate un mythe égyptien.
Une importante délégation du Louvre est venue présenter aux médias iraniens les 53 pièces qui ont fait le voyage de Paris à Téhéran. Des œuvres de différentes époques et civilisations, soigneusement sélectionnées avec les autorités culturelles iraniennes. Cette exposition inédite a été rendue possible après la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien qui a relancé les relations culturelles entre les deux pays. Yannick Lintz, la directrice des arts de l'islam au musée du Louvre, attendait ce moment depuis longtemps.
C'est un événement et une émotion, puisque je venais ici en juin 2015, alors que j'étais la première Française du Louvre à recevoir un visa officiel pour une première réunion. Et donc, dès l'époque, il a été question pour nos amis iraniens de vouloir, dans ces retrouvailles et ces nouveaux projets, faire une exposition du Louvre à Téhéran. Voilà, nous sommes en mars 2018 et c'est concret. Donc c'est un beau parcours, je pense. On peut tous en être fiers.
Une fierté partagée par les Iraniens qui ont insisté pour que des pièces égyptiennes, notamment un sphinx royal, soient exposées alors que les relations entre Téhéran et le Caire se sont durcies sur le plan diplomatique. Le directeur du musée national iranien, Jibril Nokandeh, veut y voir une main tendue.
C'est l'un des rôles qui joue ce genre d'échange interculturel. En fait, c'est ce dialogue réciproque, ce dialogue international. Du coup, J'espère bien que ça ouvrira une fenêtre.
Parmi les œuvres présentées, deux attirent l'attention de cette jeune Iranienne. Ce sont deux objets en bronze. Ces deux pièces iraniennes que le Louvre possède, on ne les a jamais vues. C'est la première fois qu'on les voit. Les Iraniens ont 3 mois pour découvrir également quelques peintures et sculptures religieuses comme une Vierge à l'enfant, datant du XIIIe siècle, ou un magnifique tableau de Corot, le passeur, peint aux environs de Montfermeil.
Valérie Kouva à Téhéran. Pour échapper au chômage, les salariés doivent se préparer à la transformation des métiers et aux mutations technologiques. C'est dans cette optique que se prépare la réforme de la formation professionnelle détaillée aujourd'hui par Muriel Pénicaud. Le compte personnel de formation va évoluer. La ministre du Travail veut qu'il soit crédité en euros et non plus en heures, avec un abondement de 500 euros par année. Le dispositif sera ainsi plus lisible et plus juste, d'après la ministre. Muriel Pénicaud annonce par ailleurs une simplification administrative avec la suppression des OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, dont la mission sera confiée pour partie à des opérateurs de compétences, pour partie aux URSSAF. Alors expliquez-nous tout ça, Catherine Pétillon.
Oui, alors ça peut sembler technique, mais le sort fait aux OPCA est en fait l'une des clés de cette réforme et aussi une bonne illustration de la logique à l'œuvre, à savoir d'une part le renforcement du rôle de l'État dans le système de formation et d'autre part la diminution des intermédiaires entre les salariés et les organismes de formation. L'exécutif insiste globalement sur un objectif pour la réforme, simplifier, et c'est vrai que le système actuel est de l'avis de tous très complexe. Au centre, il y a aujourd'hui ces fameux OPCA, des organismes co-gérés par les syndicats et le patronat, et pour l'exécutif, ils sont en bonne partie responsables de cette complexité. Ce sont eux, ces OPCA, qui récupèrent et gèrent les cotisations des entreprises, certifient les formations, font intermédiaire entre les salariés et les organismes de formation. Si vous avez déjà fait une formation, ou même vous avez sûrement entendu le nom de celui de votre secteur d'activité, AGFOS PME, AFDAF, UNIFAF, en tout, il en existe une vingtaine. Avec cette réforme, leur rôle est revu de fond en comble et leur poids largement réduit. Ils n'auront plus la maîtrise de l'argent de la formation. L'État va reprendre la main via les URSSAF qui collecteront les cotisations auprès des entreprises et surtout la Caisse des dépôts qui sera en charge de leur gestion. L'autre grand rôle des OPCA, c'est, pour dire vite, l'accompagnement des salariés, un fonctionnement peu lisible a tranché le gouvernement. Il préfère un système où chaque salarié reçoit 500 euros chaque année, libre à lui de les utiliser comme il le souhaite, sans intermédiaire donc. L'argument de la simplicité ne convainc pas les syndicats. Ils voient surtout le risque que moins accompagnés, les salariés aient un accès plus inégal à la formation.
Catherine Pétillon, le mouvement de protestation contre l'insécurité se durcit encore à Mayotte. C'est maintenant la 3e semaine de grève générale et en plus des barrages et des manifestations, voilà que les maires se mobilisent. Les élus ont fermé les portes des mairies de manière illimitée. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Aurélie.
Et le président du parti Les Républicains vient rajouter un peu d'huile sur le feu. De passage sur l'île après 2 jours à La Réunion, Laurent Wauquiez annonce que Mayotte est abandonnée par le président de la République.
C'est une tournée ultramarine qui tombe à pic. Laurent Wauquiez arrive au 14e jour d'un mouvement qui se durcit de plus en plus et en pointant du doigt le chef de l'État, il ne fait finalement que reprendre la tonalité du discours des élus de l'île qui en appellent à l'intervention d'Emmanuel Macron lui-même.
Je dis très solennellement au président de la République que s'il ne s'en occupe pas maintenant, que s'il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se faire à Mayotte, nous allons au-devant de graves incidents sur l'île de Mayotte. Les Mahorais sont très patients, les Mahorais sont très tolérants, mais ils ont droit aussi au soutien de la France. Le gouvernement n'a que trop ignoré depuis trop longtemps la situation de l'île de Mayotte, que mon déplacement serve au moins à donner la parole à ceux qui n'ont pas été entendus.
Laurent Wauquiez, que je viens de joindre à l'instant, à Mamoudzou, sur place, la défiance est grande envers le préfet et à Paris, envers la ministre de l'Outre-mer. C'est ce dont me fait part cette fois le député mahorais Les Républicains, Mansour Kamardine, qui se trouve sur place aux côtés de Laurent Wauquiez.
Il n'y a rien. Le gouvernement affiche un mépris total à l'égard des Mahorais. Il n'y a rien. Aucun contact avec les élus. Vous savez, je vais vous faire un aveu. J'ai demandé au ministre de l'Outre-mer, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Éducation nationale de me recevoir. J'ai demandé audience. Tous les trois, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps.
Ce député parle de mépris envers le 101e département français où 84% de la population se trouve sous le seuil de pauvreté. Ce que je vois là, dit Laurent Wauquiez en visite sur l'île, c'est la République qui est en train de se défaire. Le patron des LR qui fait ce soir une proposition radicale, il demande d'ouvrir un débat pour une dérogation au droit du sol afin de limiter l'accession à la citoyenneté française pour un certain nombre d'enfants nés de parents en situation irrégulière sur l'île de Mayotte.
Ludovic Piétenu. Il y avait hier une élection législative partielle en Guyane. Au premier tour, le candidat La République En Marche, Lénaïque Adam, dont l'élection avait été invalidée en décembre, est arrivé en tête. Son rival, David Reymann, soutenu par la France Insoumise, ne semble plus en mesure de l'emporter et c'est un mauvais signal pour Jean-Luc Mélenchon, Stéphane Robert.
Oui, sur le papier, rien n'est perdu pour le candidat de la France Insoumise. David Reymann s'est qualifié pour le second tour avec 35% des suffrages, c'est 15 points de mieux qu'en juin dernier. Ce qui semble réjouir aujourd'hui le conseiller de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, selon qui une dynamique est à l'œuvre. Il est au micro de Sophie Delpont.
Notre candidat a augmenté son score de plus de 15 points. Il a multiplié par deux son nombre de voix. Et par rapport au mois de juin dernier, il a réduit l'écart qui le séparait du candidat de La République En Marche de à peu près un tiers. Or, en juin dernier, au second tour, il avait perdu seulement de quelques voix. Donc, on considère qu'aujourd'hui, le chemin de la victoire est ouvert. Que nous avons, nous, une chance de l'emporter. Mais surtout que les Guyanais ont une chance, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale un député qui sera porteur des aspirations qu'il y a eu dans la rue en Guyane lors du mouvement social guyanais. Et c'est ça le plus important.
Il ne faut pourtant pas se bercer d'illusions. Les chances de David Reymann de combler son retard sont très minces. Déjà parce qu'il y a 8% d'écart, ce qui représente un peu plus de 1100 voix d'avance pour Lénaïque Adam, le candidat En Marche. C'est beaucoup compte tenu du taux de participation autour de 30%. Ensuite, il faut voir que dans ce scrutin très particulier, un vote communautaire s'est exprimé. Les populations créoles, qui vivent essentiellement dans la partie est de la circonscription, autour de Kourou et dans la banlieue de Cayenne, ont massivement voté pour David Reymann, d'origine créole. Mais c'est uniquement là qu'il arrive en tête. Partout ailleurs, et notamment dans la partie ouest, du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, les électeurs ont voté pour leur candidat, un Bushinengue, c'est-à-dire un descendant des anciens esclaves venus du Suriname. On peut donc considérer que le vote est de ce point de vue-là relativement figé. Enfin, troisième élément, le candidat En Marche part avec un net avantage du fait qu'il est soutenu par le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, parce que beaucoup de villages, de petites communes dépendent financièrement des liens qu'elles entretiennent avec le pouvoir en place, et notamment la collectivité territoriale. Il y a donc en quelque sorte une prime électorale au candidat soutenu par ceux qui sont aux commandes. Tous ces éléments mis bout à bout laissent penser qu'il sera vraisemblablement très difficile au candidat soutenu par Mélenchon de s'imposer en Guyane dimanche prochain.
Stéphane Robert, un homme soupçonné d'être parti pour le djihad en Syrie, comparaît aussi pour soustraction d'enfants devant le tribunal correctionnel de Paris. Il avait emmené avec lui sa fillette de 18 mois que sa mère avait finalement récupérée en Turquie plus de 10 mois plus tard. Vous suivez cette audience, Florence Turm.
Ce pourrait être l'histoire tristement banale d'un couple qui se déchire autour d'une petite fille de 3 mois. Elle, jeune femme brune, veste et pantalon noir, raconte son retour à lui d'un pèlerinage de la Mecque. C'est là qu'il a commencé à basculer, une barbe, des habits traditionnels, il a donné tous ses survêtements. Il en porte un aujourd'hui à l'audience, blanc, avec une bande orange sur le côté, cheveux ras, voix un peu traînante, profil bas, explications parfois confuses, comme lorsqu'il parle de sa belle-mère qui stockait des couches et conservait le passeport de sa fille chez elle. C'était famille contre famille, intervient son avocate. Personne ne pouvait supporter l'autre. Le 14 octobre 2013, il passe prendre l'enfant pour la journée, demande quelques vêtements chauds pour la petite fille. « T'inquiète pas, dit-il à sa femme quelques jours plus tard, je suis à Perpignan. » En réalité, il a déjà rejoint son frère en Turquie. Et le 20 décembre, il passe la frontière syrienne, toujours avec sa fille. « Vous saviez qu'il y avait la guerre ?» interroge le président. « Oui, mais je n'étais pas en zone de combat. C'était pas mon intention de rejoindre un groupe terroriste. Et vous faites quoi, arrivé en Syrie ? Rien. Je me promène, je m'occupe de ma fille. » Quand votre femme vous appelle, vous dites pourtant que vous êtes l'émir des familles. Il voulait se faire mousser auprès d'elle pour l'inciter à le rejoindre, explique son avocate. Le président reprend les écoutes, lecture méthodique, accablante. « Tu vas combattre ? » demande son épouse qui tente à tout prix de conserver le contact. J'offre ma vie, répond-il. On a trop d'ennemis, les Américains, les Français, ils sont allés trop loin. Au téléphone, à des milliers de kilomètres, il lui promet juste de mettre Assia en sécurité.
Florence Turmont, direct du Palais de Justice de Paris. Et le procès en appel de Carlos pour l'attentat du drugstore Publicis s'est ouvert aujourd'hui. Ilich Ramirez Sanchez comparaît devant une cour d'assises spéciale 44 ans après les faits. L'explosion d'une grenade dans la galerie marchande du grand magasin parisien avait fait 2 morts et 34 blessés. Carlos a déjà été condamné 3 fois à la peine maximale par la justice française. Le temps sera mitigé demain avec des averses, en particulier sur l'ouest. Le soleil reviendra dans le sud-est. Les températures minimales iront de 1 à 6 degrés dans les terres, les maximales de 9 à 13 degrés, jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.